enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
C'est ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire. Pensons à ce qu'on dit. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai changé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui peut peut-être me chercher une bouteille d'eau, par exemple. Ce serait apprécié. Mais Dieu est bon. Et j'ai hâte de partager la parole de Dieu ce matin. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager quelque chose concernant le pouvoir de faire une différence. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose dans leur cœur qui ça leur pousse de vouloir faire une différence dans ce monde? Je sais pas, pour moi, c'est une passion dans ma vie. Moi, je ne veux pas vivre ma vie et passer, 80 ou 90 ou 100 ans sur 120 ans sur la terre et quitter la terre sans avoir laissé des traces. C'est pas des mauvaises traces, mais des bonnes traces. C'est vous? Pas les traces pour la gloire de moi-même, mais les traces pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça qu'on veut. On veut que, après avoir vécu ici sur la terre, que les gens puissent être capables de pointer et dire, à cause de sa vie, telle personne est dans le royaume de Dieu. À cause de sa vie, tel pays a reçu l'Évangile. À cause de sa vie, un réveil a été répandu dans toute une région du monde. Croyez-vous que c'est possible? Vous savez, moi, je crois que avec Dieu, tout est possible. Dieu vous a destiné à faire un impact. La vision de notre Église, c'est de faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà par la puissance de la bonne nouvelle. Mais savez-vous que l'Église, c'est quoi? C'est pas juste un bâtiment, c'est nous. Nous sommes une famille, les individus. Nous sommes appelés à faire une différence. Vous, en tant qu'individu, vous êtes appelé à faire une différence dans votre famille, dans votre travail, dans votre quartier, dans votre monde. Et si vous êtes vraiment, vraiment bien branché à Dieu, je suis convaincu que votre vie peut avoir un effet positif, même jusqu'aux extrémités de la terre. Amen? Des fois, on pense, je ne parle pas forcément que tout le monde va être appelé à aller en Outre-mer comme missionnaire, mais vous avez quelque chose à faire. Et si vous faites qu'est-ce que Dieu vous demande à faire, ça va influencer, ça va affecter la vie de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? On est tous d'accord que la vie de Moïse a changé le monde pour toujours. Vous êtes d'accord? Mais Moïse a fait des grandes choses avec Dieu, mais c'était un homme qui avait des problèmes, un homme qui avait des faiblesses, un homme qui s'est trompé même dans le timing de Dieu, un homme qui a essayé de faire les choses avec sa propre force, au lieu de laisser Dieu agir. Mais Dieu a quand même choisi Moïse pour sauver le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Mais avez-vous pensé aux parents de Moïse? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Heureusement, ils ont eu assez de la crainte de l'Éternel dans leur vie pour voir que le bébé avait besoin d'être sauvé. Donc, ils ont caché leur bébé. Et en plus, ils ont fait un bon panier. On dit, qu'est-ce que ça change de faire un panier? Mais ça dépend qu'est-ce que vous allez mettre dans le panier. Vous êtes d'accord? Si vous allez mettre le sauveur d'une nation dans le panier, il faut faire un bon panier. Il ne faut pas que ça coule. Vous êtes d'accord? Donc, des fois, on pense au plan de Dieu et on pense que si on n'est pas en train de prêcher aux multitudes, si on n'est pas en train de faire un voyage missionnaire en Outre-mer, qu'on ne fait pas grand chose. Mais qu'est-ce que je sais, c'est que peu importe qu'est-ce qu'on fait, aussi longtemps qu'on fait la volonté de Dieu et on suit le plan de Dieu pour notre vie individuellement, que nous sommes en train de faire une différence pour l'éternité. Amen. Mais qu'est-ce qu'on va voir pendant les, je ne sais pas, peut-être un couple de semaines ou plusieurs semaines, j'essaie de chercher la face du Seigneur. Ce matin, c'est plus une exhortation qu'autre chose. Mais je crois que dans les semaines à venir, on va aller plus en détail et voir, oui, mais comment? Comment est-ce qu'on peut mettre ces choses en pratique? Comment est-ce qu'on peut vraiment, sur un plan pratique, comment est-ce qu'on peut vivre une vie et mener une vie qui va faire une différence? Est-ce que c'est votre désir? Donc, mais on va regarder, on va commencer à Malachie chapitre 3. Donc, regardons. Le Seigneur a mis dans mon cœur plusieurs versets pendant que je priais pour la réunion ce matin. Et c'est un peu différent la façon que je vais présenter ce message ce matin, mais c'est important qu'on saisisse qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Et ça va de pair avec ce que Dr. Casement a partagé avec nous la semaine passée. Il parlait d'aimer Dieu de tout notre être. Mais dans mon esprit, j'avais certains versets que le Seigneur voulait, je crois. Il voulait que je lise cela. Il voulait qu'on médite cela. Il voulait qu'on se prépare à vraiment obéir à sa parole afin qu'on puisse faire une différence dans ce monde. Malachie chapitre 3. Dit ceci en verset 16. Et n'oubliez pas que le contexte ici, c'est un peuple qui, une nation qui est un peu rétrogradée, un peu beaucoup, une nation qui vit pas forcément selon les principes de Dieu et la parole de Dieu. Et en fait, il y a des personnes en Israël à l'époque qui commençaient à dire, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être d'être serviteur de Dieu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer de faire les choses selon la parole de Dieu? On regarde les méchants et il nous semble que les méchants sont plus bénis que nous. C'est ça qu'ils disaient à l'époque. Est-ce que vous avez déjà dit cela ou pensé cela? Qu'est-ce que ça donne d'être chrétien? Il me semble que les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, il me semble qu'eux autres aussi sont heureux des fois. Il semble que ça va bien, mais savez-vous quoi? Ça, c'est juste les choses à l'extérieur, n'est-ce pas? On sait que si quelqu'un ne sert pas l'Éternel, il ne peut pas avoir le vrai bonheur. Vous êtes d'accord? Mais c'est un peu le contexte. Et Dieu est en train de reprendre son peuple, mais il dit quelque chose de bien intéressant, verset 16 de Malachie 3. Il dit, « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. » Je veux que vous voyez cela. Il se parle. Souligne le mot « parle ». Qu'est-ce qu'on dit avec notre bouche est important. Qu'est-ce qu'on dit en privé est important. Et qu'est-ce qu'on dit entre nous est important. Et qu'est-ce qu'on va voir, c'est que Dieu remarque les paroles de notre bouche. Pourquoi? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et on sait que si on est rempli de bonnes choses dans notre cœur, on va dire les bonnes choses. Si notre cœur est rempli de la foi et la confiance en Dieu, on va parler de cela. Si on a de l'amour, comme Dr. Casement a dit la semaine passée, quelqu'un qui est en amour va parler de son amour, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de deviner. Il parle, il parle, il parle, ou elle parle, il parle, il parle. Et c'est la même chose avec nous. Ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Et il écouta. Sachez que Dieu, il écoute qu'est-ce qu'on dit entre nous. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Hein? Réfléchissez. Pensez aux dernières conversations que vous avez eues avec les autres chrétiens dernièrement. De quoi avez-vous parlé? Parce que Dieu écoutait, n'est-ce pas? Il était attentif. Et il écouta. Et regarde ceci. Il écoute pas seulement, mais Dieu prend des notes. Tout le monde dit Dieu prend les notes. Regarde quelqu'un à côté de toi et dit Dieu prend les notes. C'est pas moi qui l'invente ici, c'est Dieu, mais il dit ici, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Donc là, il dit, Dieu est en train de dire que la plupart de la nation est en train de se plaindre, de dire les choses négatives. Oh, ça vaut pas la peine de servir Dieu. Les méchants sont plus heureux que nous. Mais Dieu a dit qu'il y avait certaines personnes, ceux qui craignaient l'Éternel, qui parlaient entre eux, et les oreilles de Dieu ont été attentives. Ah, écoute ça! Écoute, il y a des personnes là qui parlent entre eux, et ils parlent des bonnes choses. Et quand on parle des bonnes choses entre nous, quand on parle des choses de Dieu, quand on parle dans la crainte de l'Éternel, Dieu, il a écrit un livre de souvenirs, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, et ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence. Comment on dit la différence? Tout le monde dit ça encore, la différence. On parle aujourd'hui de comment faire une différence dans le monde. Et Dieu est en train de dire que ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui honorent le nom de Dieu, que Dieu prend note de ces personnes, littéralement, il écrit un livre de souvenirs à propos de ces personnes. Pourquoi? Parce que Dieu a l'intention de se manifester et de montrer sa puissance à ces personnes afin que la différence entre nous qui croyons en Dieu, nous qui craignons l'Éternel, nous qui servons Dieu, la différence entre nous et les méchants soit flagrant, ça soit manifesté et tout le monde va voir, waouh, il y a quelque chose de différent chez eux. Amen. Mais c'est intéressant de voir que nous pouvons faire les choses pour provoquer l'action de Dieu de notre côté pour que la différence entre nous et le monde soit si évidente. Amen. Et une des choses qu'on peut faire, ça c'est juste une chose, on peut commencer au moins à craindre l'Éternel, à honorer son nom et d'en parler entre nous. Dieu aime ça. Il prend des notes. Ah, j'ai entendu qu'est-ce qu'il a dit. Hein, quand tu parlais avec ton frère dans le Seigneur, tu disais, ah, tu sais, je sais dans mon cœur que le Seigneur va faire des grandes choses à Drummondville. Je sais dans mon cœur que le jour s'en vient, on va voir des milliers de personnes dans notre église avec les mains dans l'air en train de louer l'Éternel. Tu sais, quand tu parles comme ça, Dieu prend note de cela. Ah, ah! Il prend les noms. Il prend note de cela et il va dire que ça, c'est les personnes pour qui je vais me manifester. Amen. Quand on parle de même, quand on parle avec foi, quand on parle de la vision que Dieu nous a confiée, savez-vous quoi? Nous allons faire un impact dans cette ville. Mais pas juste dans cette ville. On va avoir les églises implantées partout dans cette province. On va envoyer les missionnaires dans les 52 pays qui utilisent la langue française. On va voir de grandes choses. Dieu aime entendre des choses de même. Pourquoi? Parce que c'est son idée. Il dit, ah, enfin, quelqu'un qui parle de mon plan. Enfin, quelqu'un qui parle de ma vision. Enfin, quelqu'un qui me fait confiance et qui croit qu'il peut vraiment faire une différence. Combien de vous croyez que vous pouvez faire une différence? Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malheureusement, si on est honnête et on regarde le monde chrétien aujourd'hui, il n'y a pas grande différence des fois entre ceux qui se disent chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le monde est capable de distinguer entre ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui ne le craignent pas? On va parler un peu de cela aujourd'hui. Et en fait, ça c'est les deux éléments qui sont marqués dans ce verset qu'on a lu. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est la première chose dans vos notes, où on peut dire la révérence pour l'Éternel, c'est un élément clé. Si on veut faire une différence dans le monde, il faut développer une révérence pour Dieu. Est-ce que vous êtes là? Quand je parle de la crainte de l'Éternel, je ne parle pas d'avoir peur de Dieu comme on a peur d'un serpent ou quelque chose de ce genre. Parce que Dieu est bon. Dieu nous aime, il est en père, il est en papa. Mes enfants n'ont pas besoin d'avoir peur de moi, mais ils ont besoin d'avoir du respect pour moi, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour Dieu. J'ai pas besoin d'avoir peur de Dieu, mais quand même j'ai du respect pour lui. Moi, j'ai grandi, même en tant que petit garçon, je m'en souviens, mon père m'a laissé tirer un fusil pour la première fois, j'avais 5 ans, je m'en souviens. Savez-vous, un fusil est dangereux. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur d'un fusil si on a une bonne révérence pour le fusil. On sait comment le manipuler, n'est-ce pas? Si on sait quel bout fait quoi? Si on sait où le pointer, hein? Toute la différence, ça dépend de quel côté on se trouve, hein? Et c'est un peu la même chose avec Dieu. Si on se trouve du bon côté, si on se trouve toujours de son côté, on n'a rien à craindre. Mais si on se trouve au côté opposant de Dieu, on fait les choses qui sont contraires à sa volonté, et on est rebelle ou révolté, là, laisse-moi vous dire, on peut pas juste dire, ah, mais tu sais, Dieu est bon, il est amour, il est plein de grâce et miséricorde. Oui, il est amour, il est miséricordieux, et même la miséricorde triomphe du jugement, mais Dieu est quand même un Dieu qui est juste et saint, et il a besoin, il est digne d'être respecté, n'est-ce pas? Et en quelque part, c'est un élément qui manque dans beaucoup d'églises et dans les vies de beaucoup de chrétiens. La crainte de l'Éternel est presque inconnue chez certaines personnes. Ils vont faire les blagues, ils vont sacrer, ils vont faire toutes sortes de choses sans penser jusqu'à quel point Dieu est grand, puissant et redoutable. Est-ce que vous êtes d'accord? Encore, c'est mon papa, mais mon papa est fort. Mon papa est bon. Mais mon papa est juste aussi. Mon papa est saint à 100%. Amen. J'ai mis juste plusieurs versets concernant la crainte de l'Éternel pour nous aider ce matin. On va les lire assez rapidement. Je vais juste souligner un couple de points. Philippiens 2, 12 dit, « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. » Tout le monde dit « crainte et respect ». Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochable et pur. Tout le monde dit irréprochable et pur. Des enfants de Dieu sans tâche au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez. Regarde votre voisin, dit vous êtes brillant. Vous brillez. Vous brillez comment? Comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Ça, c'est est-ce que vous êtes d'accord que c'est pas moi qui a écrit ce verset? C'est pas moi qui ai inventé cela. Vous êtes d'accord que ce verset fut écrit, en fait, par le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul? C'est l'Esprit Saint qui nous appelle à cette vie de crainte et de respect pour Dieu, qui va faire en sorte qu'on réalise premièrement que c'est Dieu qui travaille en vous, c'est Dieu qui est à l'œuvre en vous pour vous donner à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ce que je suis en train de vous exhorter aujourd'hui, je sais que ce n'est pas une chose que vous êtes capable de faire vous-même. Vous avez besoin de l'intervention de Dieu, la force de Dieu et la puissance de Dieu pour arriver à la place où Dieu veut qu'on arrive. Amen. Essayez d'être un bon chrétien et d'être pur et saint avec votre propre force, juste en faisant les choses extérieures et charnelles, ça ne marchera jamais. Mais si tu réalises que Dieu est à l'œuvre dans votre vie et c'est lui qui vous donne à la fois le vouloir, comment on dit le vouloir, et le faire. C'est-à-dire le vouloir et le pouvoir. C'est-à-dire tout simplement que si tu veux, ça prouve que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Parce que le désir que vous avez dans votre cœur de vivre dans la sainteté, ça ne vient pas de vous-même. Vous-même, laissez à vous-même, vous avez les désirs charnels. Vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu. C'est seulement quand on arrive à Jésus-Christ et quand on donne notre vie à lui et quand on est né de nouveau, qu'on devient une nouvelle créature, là, notre cœur change. Là, on veut faire le bien. Amen. Et ça prouve que Dieu est à l'œuvre en vous. Donc, si jamais vous pensez que Dieu vous a abandonné, vous êtes frustré parce que vous n'arrivez pas, non, Dieu ne vous a jamais abandonné. Dieu est en vous, il travaille et il vous donne le vouloir et c'est lui, avec le vouloir, il donne le pouvoir. Dieu ne nous demande pas des choses juste pour nous frustrer. Des fois, les personnes pensent, « Oh, mais Dieu veut que je mène une vie sainte. Et, oh, il veut me frustrer. » Non, c'est pas ça. Il te demande quelque chose et avec le vouloir, il donne le pouvoir. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux. Tu m'en dis, « Si je veux, je peux. » Amen. On va le dire encore. « Si je veux, je peux. » Peu importe. Si tu veux quelque chose que tu sais c'est la volonté de Dieu, tu peux le faire. Amen. Et dans les semaines à venir, je vais vous montrer les choses de la parole de Dieu, les choses pratiques qui vont vous aider à le faire aussi. Amen. Mais ce matin, on veut ranimer le feu dans notre cœur. On veut que le désir de vivre dans la crainte de l'Éternel et dans l'honneur de son nom soit installé dans notre cœur comme jamais auparavant. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Ça, c'est un bon psaume. Psaume 128:1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Savez-vous, pour être heureux dans la vie, il faut craindre l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Pensons à ceci. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Si on est honnête, ça c'est une bonne description du rêve de la plupart des hommes, n'est-ce pas? D'avoir un travail qui est fructueux et qui est béni, d'avoir une famille, une femme et des enfants, d'avoir, d'être heureux, d'être prospère, ça c'est le rêve de tout le monde. Tout le monde, il se casse la tête pour l'avoir, n'est-ce pas? Ils vont travailler comme les fous, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, il y a même des personnes qui vont essayer de faire ça d'une façon malhonnête, ils vont tricher, ils vont faire tout, ils vont mentir, juste pour essayer d'avoir cette vie heureuse. Mais ici, la Bible est claire que cette vie heureuse est destinée à ceux qui craignent l'Éternel. La crainte de l'Éternel va vous amener toutes les choses que vous voulez dans la vie. Tous vos rêves, tout ce que vous voulez, c'est le résultat, c'est le produit de la crainte de l'Éternel. Amen. Mais malheureusement, on est dupé des fois par le diable. On pense que c'est le contraire. On pense que si je sers le Seigneur, si je marche droit comme il veut, ma vie va être plate. Ça serait pas le fun, je vais manquer. C'est ça que je pensais à l'âge de 14-15 ans. Je pensais, ah, je peux pas vivre comme ça, je vais pas avoir le fun. Mais c'était un mensonge. Un autre verset, Proverbe 14:27, la crainte de l'Éternel est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'haïs. Voulez-vous savoir c'est quoi une bonne définition de la crainte de l'Éternel? C'est facile. Haïr le mal. J'ai pas dit de haïr le méchant. Dieu aime le méchant, mais il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Donc, si vous avez, bonne question, si vous aimez les choses que Dieu n'aime pas, vous ne marchez pas dans la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous avez entendu qu'est-ce que je dis? Mais si vous êtes vraiment dans la crainte de l'Éternel, une révérence pour Dieu, vous allez haïr les choses que Dieu haït. Allô? Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. C'est pas une source d'ennui. C'est pas une source de frustration. La crainte de l'Éternel, c'est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Pourquoi est-ce que, oh, j'aimerais tellement être capable d'avoir une injection qu'on pourrait donner à chaque enfant de Dieu. Et surtout aux adolescents, des fois, juste, on donne cela, une injection de la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils vont réaliser, wow, si je suis le Seigneur et je fais les choses comme il me demande de les faire, il va me détourner des pièges de la mort. C'est une source de vie. Je vais être heureux. Toutes les choses que je veux, mes rêves, mes songes vont se réaliser parce que je marche dans la crainte de l'Éternel. Donc, les placiers, ils ont tous les syringes ce matin. En sortant, vous pouvez prendre votre piqûre. Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. C'est pas une piqûre, c'est quelque chose que Dieu a fait dans notre cœur. La crainte de l'Éternel. Deuxième chose dans vos notes, c'est l'honneur pour son nom. L'honneur pour son nom. On a besoin d'honorer son nom. Et en fait, dans l'hébreu, dans Malachie 3, ce mot honneur veut dire aussi de méditer son nom. Ça va de pair avec parler entre nous. Il faut qu'on médite sur la puissance de Dieu, sur la beauté de Dieu, la sainteté de Dieu. Il est redoutable. Et on veut l'honorer de notre cœur. Pas comme Matthieu 15:8 dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que vous avez de l'honneur pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose quand vous pensez? Je sais pas. Je crois que je suis convaincu que l'honneur, c'est un élément tellement important dans la vie. En fait, Dieu dit que honorer son père et sa mère, c'est le premier commandement avec une promesse, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai marqué dans vos notes. Éphésiens 6, 2, 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voulez-vous être heureux? Voulez-vous vivre longtemps heureux sur la terre? C'est quoi la clé? L'honneur. L'honneur, c'est une chose que notre société a perdue. On a perdu ça. Un jour, et je le dis là, je vais commencer bientôt, parce que ça brûle dans mon cœur, on va commencer quelques rencontres pour les hommes. Et moi, j'ai à cœur de parler aux hommes de l'importance de l'honneur. Comment honorer Dieu? Comment honorer sa femme? Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui honore, qui connaît cela. Autrefois, c'était comme non, même dans la société, on ne parle même pas des chrétiens, mais un homme va ouvrir une porte pour une femme. Un homme va être prêt à se sacrifier pour sauver mademoiselle ou madame, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est pas comme ça, hein? Aujourd'hui, les hommes se cachent en arrière de la femme. Protège-moi, protège-moi. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qu'on a besoin de cultiver dans notre cœur en tant que chrétien, et ça c'est l'honneur. Premièrement, l'honneur pour l'Éternel. Que quand on est dans la présence de Dieu, on est reconnaissant, on est chaleureux avec papa, mais en même temps, c'est mon père. Mais en même temps, c'est mon roi. Alléluia. Et si on peut apprendre à honorer Dieu et à honorer les autres, ça va amener une vie heureuse et on va être capable de faire une différence dans ce monde. En fait, Romains 13, 7 dit ceci. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt. Ah, désolé, j'avais besoin de mentionner cela à l'Église. Hein? Le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est bon ça? Combien de vous savez que ce n'est pas moi qui a écrit cela? C'est Dieu qui le dit. Et je vous assure qu'une clé pour votre réussite dans la vie, c'est d'apprendre la crainte de l'Éternel et de honorer son nom. On va honorer son nom. Une fois, j'ai entendu parler d'un homme. En fait, vous avez peut-être lu un de ses livres, c'est Gary Smalley. Il enseigne beaucoup sur les mariages et les chrétiens. Il fait des conférences pour les couples, etc. Mais une fois, il voulait enseigner l'importance d'honorer nos épouses, exemple. Mais le principe s'applique à Dieu et à n'importe qui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené avec lui sur l'estrade un violon. Comment est-ce qu'on appelle ça, un Stradivarius? Ça. Qui valait 200 000 $, je pense. Je pense qu'il y avait un prix d'à peu près 200 000 $, si je ne me trompe pas. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il y avait une foule, peut-être 1000 personnes ou plus. Il a dit, je veux que tout le monde dans la salle prenne ce violon entre leurs mains. Donc, il a pris cela, il l'a présenté à la première personne. Comme il a dit, c'était incroyable de voir la réaction. Monsieur vient d'avoir entre ses mains un instrument précieux mais délicat et il a reçu comme « wow ». Il a donné doucement à quelqu'un d'autre « wow ». Et tout le monde, c'était doucement, avec respect, avec précision, ils ont passé le violon. Il a dit « on devrait traiter nos épouses au moins, avec au moins autant de tendresse, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous a donné ces femmes. On devrait dire, wow! Mais c'est pas juste nos femmes, c'est tout le monde dans le corps de Christ. Et si on devrait avoir cette attitude par rapport aux autres, quel honneur est-ce qu'on devrait avoir par rapport à Dieu? Comme Dr. Caseman dit, hein, c'est des valeurs des fois. On est en train de louer le Dieu Tout-Puissant et des gens qui... Ou ils font d'autres choses. Non, c'est Dieu, on est dans ta présence. Je ne parle pas d'être religieux, mais je parle d'avoir une véritable honneur pour le nom de Dieu. Amen? J'aime Jésus, et vous? Donc, comment mener une vie qui fera une différence? Voici un autre verset que le Seigneur a mis dans mon cœur. et que je veux vraiment prendre quelques minutes ce matin pour regarder cela. Romains 13, verset 7. Et dans ce verset, dans ce texte-là, vous allez trouver sur l'autre page de vos notes, il y a 6 points qu'on trouve dans ce texte. 6 choses pratiques qu'on peut faire pour mener une vie qui fera une différence. Mais je crois vraiment que c'est une exhortation de l'Esprit ce matin. Ce verset, c'est l'oracle de Dieu pour la vie comblée aujourd'hui. Est-ce que vous avez des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit? C'est pas juste, oh ben, le pasteur voulait partager cela. Non, je crois de tout mon cœur que le Seigneur a inspiré le pasteur avec ce verset pour qu'on puisse méditer, saisir et mettre en pratique ces principes. Mais regardons ceci. Il dit en verset 8, « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » C'est exactement ce que Dr. Caseman nous a dit la semaine passée. La chose la plus importante, c'est d'aimer Dieu de tout notre être, n'est-ce pas? C'est le premier commandement. Mais le deuxième commandement, c'est d'aimer notre prochain comme on s'aime soi-même, n'est-ce pas? Donc là, on voit que si on marche dans l'amour, automatiquement, on va accomplir toutes les autres exigences de la loi de Dieu. Si j'aime quelqu'un, je ne vais pas le tuer. Si j'aime quelqu'un, je ne vais pas le voler. Si j'aime quelqu'un, je ne vais pas mentir. Amen? Si j'aime quelqu'un, je vais rien faire pour être une pierre d'achoppement. Si j'aime quelqu'un, je vais tout faire pour qu'il vienne à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, marchons dans l'amour. Mais on va continuer, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Savez-vous l'heure? Est-ce que quelqu'un a l'heure? L'heure est avancée. Oui, il est midi moins 10. Mais c'est pas l'heure naturelle qui est avancée, c'est l'heure dans l'esprit qui est avancée. Croyez-vous vraiment que Jésus revient bientôt? Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus-Christ, il va venir pour enlever son Église? Et qu'avant qu'il vienne, qu'il attende le précieux fruit de la terre, est-ce qu'on y croit vraiment? Cela importe d'autant plus que vous savez, verset 11, en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Débrouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et portons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je crois que c'est l'oracle de Dieu pour nous aujourd'hui. Première chose, regardez-leur dans votre cœur, regardez les signes des temps et réveillez-vous du sommeil. C'est le temps de se réveiller. Trop de chrétiens sont endormis spirituellement. On fait notre petite affaire, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. On n'a pas de métro ici, mais vous savez de quoi je parle. On fait cela. On a notre rythme de vie, mais on oublie que nous sommes dans les derniers jours, dans les dernières minutes des derniers jours, et qu'il y a toute une moisson qui a besoin d'être atteinte avec l'Évangile, et c'est l'heure de se réveiller. Éphésiens 5, 14 dit, c'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Dieu nous exhorte ici, c'est le temps de se réveiller, et de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. D'être rempli de l'Esprit à tous les jours. On devrait partir chaque jour en étant rempli de l'Esprit Saint. En disant, Seigneur, aujourd'hui, je veux faire une différence. Amen. Des fois, on est tellement endormi, on a besoin. Qu'est-ce qu'on fait quand, si quelqu'un est vraiment endormi et on veut le réveiller? Hein? On sait quoi. Mais des fois, ça ne marche pas. Moi, j'avais un frère, je ne devrais pas l'avouer, mais quand j'étais jeune, j'aimais jouer un tour à mon frère. Il s'endormait des fois sur le divan, il était vraiment endormi, donc, Non, je ne devrais pas le dire. Je mettais les fritos, les chips dans son nez, tu sais. Et il se réveillait. Non, mais, et puis, mon beau-père, il avait un truc. Si quelqu'un ne se réveille pas, attends, il avait un traitement d'eau. On met un peu d'eau sur le visage et pff, ça fait l'affaire. Des fois, on a besoin, si on est vraiment endormi spirituellement, on a besoin de mettre un peu d'eau dans le visage. C'est quoi l'eau? L'eau de la parole de Dieu. Il faut qu'on soit lavé par l'eau de la parole. Et si vous prenez le temps de lire la Bible et de méditer la parole de Dieu, ça va ranimer le feu dans votre cœur. Vous allez vous réveiller et vous serez prêt à faire une différence dans cette vie. Amen. Numéro 2, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. C'est le temps pour les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, de vivre comme les enfants de la lumière. Il faut pas juste dire, oh, j'ai un problème. Il faut peut-être confesser, j'ai un péché. Avez-vous entendu? On devrait appeler le péché un péché, pas juste un problème. Oh, mais tu sais, j'ai un problème. Oui, vous avez un péché, il faut se repentir. Tout le monde dit amen? Et si je ne pointe pas le doigt, parce que si je pointe le doigt, il y a toujours trois qui pointent vers moi, n'est-ce pas? Mais s'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas correct, il faut se repentir. Et ça, c'est la parole de Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, souligne cette phrase, toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous, ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Est-ce que vous appartenez à Dieu? Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvénient. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder qui est une idolâtrie n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur, ce sont des désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, comme on dit à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Oh, pasteur, j'aime pas ça quand tu prêches comme ça. Je lis la Bible, là. Est-ce que c'est correct? Mais je crois que le Seigneur veut que son corps, que sa famille soit purifiée. Il veut faire de grandes choses à travers nous. Et je ne suis pas en train de parler d'une pureté extérieure. La sanctification commence à l'intérieur. Et puis, ça se manifeste à l'extérieur. Et on va parler de comment. Oui, mais comment? On va parler de ça dans les semaines à venir. Je vais vous donner des choses pratiques. Comment marcher dans la lumière au lieu de marcher dans les ténèbres? Comment se débarrasser des mauvaises habitudes? Comment se libérer du péché? Comment être une fois pour toutes libre? Est-ce que ça vous intéresse? Mais il faut prendre une décision que je suis tanné de vivre comme le monde. Amen. Numéro 3, revêtez les armes de lumière. Savez-vous qu'on a besoin des armes si on va combattre? Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Est-ce que ça veut dire que plus vous souffrez avec une maladie, que vous allez être plus pur? Non. Ça parle de souffrir dans la chair dans le sens qu'on dit non au désir charnel. Et des fois, ça fait mal à notre chair. Des fois, notre chair dit, « Oh, mais je voulais! » Et notre cœur dit, « Non, tu ne vas plus! » Notre chair fait, « Ah! » Mais notre esprit dit, « Wow, j'ai gagné! » Et je vous assure que plus vous gagnez comme ça, plus la voix de votre chair va devenir faible. Amen. Mais regardons, on n'a pas terminé ce verset. « Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. » Est-ce que vous voulez vivre selon la volonté de Dieu? « Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Il ne nous reste pas une éternité ici sur la terre. Notre temps ici est limité. « C'est assez! » Regarde ton voisin et dis « C'est assez! » Regarde l'autre et dis « C'est assez! » Pointe ton doigt à toi-même et dis « C'est assez! » On va le dire ensemble. C'est assez! C'est assez, en effet, d'avoir le temps passé, dans le temps passé, a accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger, de boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Laisse-moi vous assurer que si on met cette parole en pratique, deux choses vont se passer. Premièrement, les gens vont être convaincus, juste par notre vie, que Jésus est vivant. Deuxièmement, il y a certaines personnes qui vont être fâchées, frustrées, et qu'on va vraiment tomber sur leur nerf. Je m'en souviens quand j'étais dans le pire état de ma vie, quand j'étais en rébellion avec Dieu, monsieur qui est maintenant mon meilleur ami, à chaque fois qu'il venait à la maison, je le détestais. Parce que à chaque fois qu'il venait, je ressentais dans mon cœur la conviction du Saint-Esprit. Lui, il vivait une vie pure. Il ne faisait pas des choses que je faisais. Mais moi, je faisais des choses que je ne devrais pas faire. Et à chaque fois que j'étais dans sa présence, je n'étais pas bien. Est-ce que vous êtes là? Je pense à Smith Wigglesworth qui était entré dans un train un jour. Il n'a pas dit un mot. Il s'est assis. Il y avait des personnes dans le wagon avec lui. Ils sont tombés par terre. Ils ont dit, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Parce qu'il dégageait la sainteté de Dieu. Il y a quelque chose. Je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas d'une chose extérieure que je suis mieux que vous et que tout le monde a besoin de mettre une cravate et marcher comme ça. On va avoir du fun. On va avoir du plaisir. On va aller jouer au golf. On va faire du kayak. On va faire toutes les choses que le monde peut faire et veut faire qui est propre, mais on va le faire en amour avec Dieu. Les gens vont voir qu'on est normal, mais pas normal. Amen. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Alléluia. Mais soyez prêts. Moi, je m'en souviens, quand j'étais vraiment, comme je dis, zappé avec la puissance de Dieu, à 3 semaines avant mon 17e anniversaire, j'étais baptisé du Saint-Esprit dans mon salon tout seul. J'ai dit, jamais plus je vais marcher avec un pied dans le monde et un pied dans l'église. Jamais plus. Je suis rentré à l'école après ma vacance forcée parce que j'avais bu de l'alcool dans un événement de l'école. J'avais une semaine de vacances. Mais pendant cette semaine, le Seigneur m'a rencontré. Et j'ai été changé, transformé. Je m'en souviens, je suis rentré à l'école et mes amis ne comprenaient pas, comme le verset dit ici, que je ne voulais plus courir avec eux au party. Et que je voulais parler avec eux de quelque chose de mieux. Amen. Et les gens disaient, qu'est-ce qui s'est passé avec Taylor? Est-ce qu'il est tombé sur sa tête? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens que, laisse-moi vous dire, j'ai perdu des amis. Des gens qui ne voulaient plus me voir. Quelques-uns sont venus au Seigneur plus tard. Quelques-uns, quand ils ont eu de la difficulté, ils sont arrivés dans une place difficile dans leur vie, ils sont venus en courant vers moi. Est-ce que tu peux m'aider? Parce qu'ils voyaient qu'il avait une différence. Mais oui, j'ai perdu des amis qui n'étaient pas des vrais amis. On voit qui est notre ami. Je pense qu'il m'aimait parce que des fois, je conduisais pour aller chercher la bière. Il m'aimait parce que, tu comprends, des fois, je donnais l'argent pour la bière. Je ne sais pas pourquoi il m'aimait, mais quand je voulais plus boire, il voulait plus me voir. Gloire à Dieu. Mais et je ne veux pas vous donner... Heureusement, le Seigneur m'a protégé tellement. J'ai passé juste une courte période de rébellion comme ça. C'était courte, mais trop longue. Numéro 4, on a juste 3 points à faire. Et on ne regarde pas nos montres aujourd'hui. Amen. Éloignez-vous du péché. Comme c'est marqué en verset 13 de Romains 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de l'usure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Éloignez-vous du péché. J'aime ce verset. Je veux qu'on le lise comme il faut, en titre 2. Ça, c'est un autre verset. Il y avait plusieurs cette semaine que je croyais que Dieu voulait qu'on lise ensemble ce matin. Et voici un de ces versets. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. As-tu vu cela? La grâce de Dieu nous enseigne à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter, comment on dit, rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Je souligne cette phrase, pleine de respect pour Dieu. Avez-vous un respect pour Dieu? En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Vous savez, l'apôtre Jean dit que si nous avons cette espérance en nous, nous espérons voir le Seigneur venir bientôt nous enlever, que ça nous rend pur. Pourquoi? C'est facile, hein? Quand Jésus vient, quand la trompette va sonner, comment est-ce que vous voulez qu'il vous trouve? Dans quelle situation voulez-vous qu'il vous trouve? Qu'est-ce que vous voulez être en train de faire quand Jésus vient? Si vous vivez d'une façon que, à n'importe quel moment, je suis prêt, Seigneur, vous allez vivre dans la pureté. Sachez que la trompette peut sonner dans 2 secondes. Alors, ça ferait du bien, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a tout un monde qui a besoin de Jésus. Il dit ici, verset 14, « Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes, et de faire de nous, ça veut dire nous, en nous purifiant ainsi un peuple que lui appartient et qui met toute son ardeur à accomplir des bonnes œuvres. » Quelques versions disent « zélé pour des bonnes œuvres ». Voyez-vous qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut toute une église qui est zélée pour les bonnes œuvres. Toute une église qui a dit non aux convoitises de la chair, qui a dit non, je ne vais plus vivre comme ça. Je veux faire une différence. Tout le monde dit, je veux faire une différence. Numéro 5, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Imaginez si tout le monde dans cette salle ferait ça. 24 heures sur 24. Est-ce qu'on pourrait faire une différence? Quelle différence est-ce qu'on pourrait faire dans le monde si tout le monde mettrait ça en pratique? Juste ça, juste, pardonnez-vous réciproquement, juste ça va être assez de convaincre des milliers de personnes que Jésus est vivant. Amen. Puis finalement, numéro 6, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Comme je dis, aujourd'hui c'est une exhortation. Mon désir c'est de vous donner le goût de mettre ces choses en pratique. Dans les semaines à venir, je vais vous montrer comment. Amen. Mais n'ayez pas soin de la chair. Savez-vous, selon ce verset en Galates 5, on va finir avec ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah, oh, je comprends pas ça. Est-ce que vous avez vécu cela? Combien de vous, hein? Soyez honnêtes, vous avez remarqué que la chair a les désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Juste 50%? Peut-être si vous n'avez pas remarqué ça. Non, je ne devrais pas dire cela. Parce que si vous êtes vraiment né de nouveau, votre cœur va vouloir faire les choses. C'est toujours la volonté de Dieu que votre cœur veut faire. Quand vous êtes né de nouveau. Mais si vous êtes honnête, vous savez que votre corps, des fois, a le désir de faire des choses qui ne sont pas correctes. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sauvé, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Dieu que vous avez le désir de faire des choses, des fois, qui ne sont pas correctes. C'est parce que vous avez quand même un corps physique qui est infecté par le péché. Mais si vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous serez capable, avec l'aide de l'Esprit, de faire mourir les œuvres de la chair et marcher dans l'Esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Vous êtes capable de mener une vie victorieuse. Amen. En fait, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je crois que c'est l'exhortation pour nous en tant qu'Église. Dans les semaines à venir, on a besoin de sonder les Écritures et voir, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour mettre ces paroles en pratique? Seigneur, j'ai besoin de me réveiller. J'ai besoin de me dépouiller des œuvres des ténèbres. J'ai besoin de revêtir les armes de lumière. J'ai besoin de m'éloigner du péché. J'ai besoin de revêtir le Seigneur Jésus. Et j'ai besoin de ne jamais plus prendre soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Si on met ces choses en pratique, on va avoir une Église forte, puissante, sainte, irréprochable. On va être comme les flambeaux au milieu d'une génération pervertie et perverse. Amen. On va se lever debout et on va prier. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin? Est-ce que vous avez le goût de vivre dans la crainte de l'Éternel et l'honneur de son nom? Alléluia. Merci Père. Avec tous les yeux fermés, je vous encourage à prendre ces notes, de regarder, peut-être prendre votre propre Bible, de prendre les notes que je vous ai données ce matin, et d'aller trouver ces passages dans votre Bible, de les méditer cette semaine, de souligner les versets, de faire quelque chose pour que ça soit une réalité dans votre vie. On va méditer ces choses, méditer ces choses, et on va voir le Seigneur agir pour faire de nous un peuple qui lui appartient, zélé pour des bonnes œuvres. Un peuple qui est irréprochable. Un peuple qui marche dans la lumière comme il est dans la lumière. Un peuple qui est libéré de tout vice et tout lien, toute chaîne du péché. Si quelqu'un est vraiment en Christ, si quelqu'un est libéré par le Fils, il est vraiment libre. Et l'ennemi a menti à plusieurs d'entre vous. Il vous a dit que vous ne serez jamais libre. Vous serez toujours dans le même trouble, dans le même problème, toujours les mêmes luttes. Mais c'est un mensonge. Si vous mettez la parole en pratique, vous pouvez marcher dans la liberté. Marcher dans la lumière. Mais ça va prendre un cœur qui est rempli de la crainte de l'Éternel et l'honneur pour son nom. Donc, Père Céleste, au nom de Jésus, montre-nous, Seigneur, comment développer, cultiver la crainte de l'Éternel, comment cultiver l'honneur pour ton nom. Au nom de Jésus, Seigneur, montre-nous comment mettre ces six choses qu'on a vues en Romains 13, Seigneur, en pratique. Et avec tous les yeux fermés, à chaque dimanche, j'aime donner une occasion. Si vous êtes ici et vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne savez pas si vous avez la vie éternelle ou non, j'aimerais vous inviter à donner votre cœur à Jésus. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc avec les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main ce matin en disant « J'ai besoin de donner ma vie à Jésus. » Juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Sinon, il y a peut-être quelqu'un ce matin qui a besoin. Vous savez que vous êtes né de nouveau, enfant de Dieu, mais vous avez besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence nécessaire de prier en autre langue. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et je crois que la présence du Saint-Esprit sur vous peut vous donner la puissance et le pouvoir nécessaire pour faire une différence aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main et dit, oui, je veux ça. Je veux le recevoir. Je vais lever la main. Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. Je vais demander à ceux qui ont levé la main, soit pour donner leur vie au Seigneur, soit pour être baptisé du Saint-Esprit. Si vous voulez juste venir ici en avant, on va prier pour vous. On ne veut pas vous... Si tu veux juste venir en avant, ne sois pas gêné. On a des personnes qui sont formées, prêtes à prier avec toi. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Gloire à toi, Seigneur Jésus. Si on peut avoir un préposé à un homme en arrière de lui, ce serait bien. Son nom, c'est... Pardon? Que le Seigneur te bénisse. On va prier pour lui, afin qu'il reçoive tout ce que le Seigneur veut lui donner. Père, au nom de Jésus, nous te remercions que, Seigneur, pendant qu'il prie avec le préposé à l'autel, il va recevoir toutes les choses dont il a besoin, Seigneur. Que son cœur soit rempli, que sa vie soit changée, Seigneur. Qu'il soit délivré, Seigneur. Et qu'il soit libéré, Seigneur, afin de pouvoir te servir de tout son cœur, de tout son être, afin qu'il puisse faire une différence dans ce monde. Parce qu'il est ton ouvrage, il est créé à toi pour des bonnes œuvres que tu as préparées en avance. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen.
Enseignemoi.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.